Chapitre 8. Le Headgird. Voici la vérité. Edda et elle s'accouplèrent dans les ténèbres, mais il ne se fit pas aimer d'elle. Elle donna le jour à la terre, et le flot de ses eaux qui accompagna cette naissance devint la mer. La terre était informe, l'immonde sans vie, puis Edda la prit entre ses mains. L'une après l'autre, elle forma les runes de son nom secret, et elle fit de même pour celui d'elle. Elle écrivit son nom avec les runes du dieu qu'elle ordonna soigneusement dans l'océan. Et tout cela, elle le vit. Mais quand il voulut du limon pour modeler ses propres runes, Edda refusa de lui en céder la plus petite parcelle. « Tu n'as donné en guise de semence qu'un peu de fluide de ton corps pour créer tout cela. Moi, j'ai apporté la chair. Reprends donc ce qui vient de toi et satisfais-t'en. » Elle n'était pas satisfaite. Alors, il fabriqua les hommes. Il leur fit présent de navires et il les déposa sur la face de la mer. Riant sous cap, il dit, « Ils sont trop nombreux pour qu'elle les surveille tous. Bientôt, ils fouleront sa terre et la transformeront à mon gré, afin qu'elle décrive mon nom au lieu du sien. » Mais Edda avait prévu son astuce. Et quand les hommes d'elle arrivèrent sur la terre, ils trouvèrent les femmes d'Edda, qui la foulaient déjà, et administraient la croissance des grains et des fruits, et la multiplication du bétail. Et les femmes n'acceptèrent point que les hommes changent la forme des terres, ni même qu'ils y résident longtemps. Elles déclarèrent, « Nous vous permettons de nous offrir la saumure de vos reins, avec laquelle nous créerons la chair qui suivra la nôtre. Mais jamais la terre, née d'Edda, n'appartiendra à vos fils. Elle ne reviendra qu'à nos filles. » La naissance du monde, selon les bardes outriliens. Malgré les craintes d'Imbre, la mouette avait montré sans erreur à Tram ce qui nous attendait. Le lendemain matin, la vigie annonça la terre, et l'après-midi, nous doublions par tribord les premiers îlots de notre destination. Les petits bouts d'archipel aux grèves verdoyantes, piquetés de maisons minuscules, autour desquelles allaient et venaient des bateaux de pêche, apportaient de la vie à un horizon resté trop longtemps purement aquatique. J'essayais de persuader l'Our de se lever et de monter sur le pont pour constater que nous approchions du terme de notre voyage, mais il refusa la tentation, répondant d'une voix lente et plaintive.
« Ce ne sera pas chez nous. On est trop loin et on ne reviendra jamais, jamais. »
Il se détourna en toussant. Son défaitisme n'atténua pourtant pas mon soulagement, et je me convainquis qu'une fois à terre, il recouvrerait la santé, tant physique que morale. Je savais que l'échéance approchait, où nous quitterions les limites étouffantes du bateau, et chaque minute me semblait un jour. Le port de Zilig arriva en vue l'après-midi même, mais j'avais l'impression qu'un mois s'était écoulé. Quand des esquifarames se portèrent à notre rencontre pour nous accueillir et nous piloter par les chenaux étroits jusqu'au port, je regrettais de ne pas me trouver sur le pont en compagnie d'Imbre et du prince. J'arpentais la cabine de devoir en jetant des regards frustrés par les fenêtres qui donnaient sur l'arrière, pendant que le capitaine hurlait des ordres et que roulait le tonnerre des pieds nus des matelots sur les planches. Imbre, le prince, son entourage et son clan de vifs observaient du pont les manœuvres. Je me sentais comme un chien à la chaîne, tandis que les matins s'élancent à la chasse. Les mouvements du navire se modifièrent quand on ferla les voiles et que les cordes de remorque des embarcations à rames se tendirent. Une fois que nous fûmes à l'emplacement voulu, nos guides outriliens nous firent virer poupe vers Zilig. Dans les bruits d'éclaboussures des ancres qu'on larguait, j'étudiais avidement la ville qui nous attendait. On amenait les autres bateaux des Siduchés sur des mouillages proches. Rien n'égale, je crois, en pesante lenteur, l'entrée d'un vaisseau dans un port, sinon peut-être son déchargement. Les eaux qui nous entouraient grouillèrent soudain de petites embarcations, dont les rames montaient et descendaient comme les multiples pattes d'insectes aquatiques. L'une d'elles, plus ornementée, emporta bientôt le prince de Voir. Imbre, une suite choisie, et une poignée de gardes. Je les regardais s'éloigner, certains qu'on nous avait complètement oubliés, Lourd et moi, quand on frappa à la porte. C'était Crible, vêtu de sa tenue de parade. Ses yeux brillaient d'excitation. « J'ai ordre de veiller sur ton simplet pendant que tu te prépares. Un bateau doit nous emmener à terre. Le reste de la garde, lui et toi. Allons, dépêche-toi. Tout le monde est prêt. » On ne m'avait donc pas oublié. Mais on ne m'avait pas non plus tenu au courant du déroulement des opérations. Prenant le jeune homme au mot, je le laissais en compagnie de Lourd pendant que je descendais dans la cale. Le secteur des gardes était désert. Ils avaient tous endossé leur uniforme propre à l'approche du port. Et ceux qui n'escortaient pas le prince s'alignaient le long du bastingage, pressés de débarquer. Je me changeai rapidement et me hâtai de regagner les quartiers du prince. Obliger Lourd à enfiler des vêtements propres n'aurait rien d'agréable ni de facile. Toutefois, je constatai en entrant que Crible s'était déjà mis à la tâche. Lourd vacillait, assis au bord de sa couchette. Sa tunique et son pantalon bleu pendaient lamentablement de sa silhouette amaigrie. Il fallait que je le visse vêtu pour me rendre compte du poids qu'il avait perdu. Agenouillé devant lui, le jeune garde le taquinait avec bonhomie pour l'inciter à se chausser. Avec des gémissements défaillants, le petit homme s'efforçait à mouvements vagues d'y mettre du sien. Son visage se plissait de détresse. Si j'avais nourri des doutes jusque-là, il n'était plus permis désormais. Crible travaillait bel et bien pour Imbre. Aucun garde classique n'aurait entrepris pareille corvée de son plein gré. « Je vais prendre la relève, » lui dis-je, sans parvenir à dissimuler complètement une certaine sécheresse. Je n'aurais su expliquer pourquoi, mais j'éprouvais un sentiment protecteur à l'égard du petit homme qui me regardait de ses yeux ronds et larmoyants. « Lourd, » fis-je alors que je terminais d'enfiler ses chaussures, « nous débarquons. Une fois sur le plancher des vaches, tu te sentiras beaucoup mieux, tu verras. »
« Ce n'est pas vrai !»
répondit-il d'un ton sans réplique. Une quinte de toux le saisit, accompagnée d'un râle qui m'épouvanta. Je lui passai néanmoins un manteau sur les épaules et l'aidai à se lever. D'un pas titubant, il quitta la cabine à mes côtés. Sur le pont, à l'air frais pour la première fois depuis des jours, il se mit à trembler de froid et serra son manteau autour de lui. Le soleil brillait, mais la température n'était pas celle d'une journée d'été à Castelserre. La neige couvrait encore le sommet des plus hauts monts de l'île et le vent nous apportait sa fraîcheur. Les Outriliens se chargèrent de nous transporter à terre. Crible et moi ne fûmes pas de trop pour faire descendre Lourd dans la barque qui dansait, et je sacrai tout bas contre les gardes qui riaient de nos efforts. Aux avirons, les Outriliens parlaient de nous entre eux, ignorant que je ne perdais rien de leur dédain pour un prince qui choisissait un idiot comme compagnon. Une fois installé sur le banc à côté du petit homme, je dus le serrer contre moi pour apaiser la terreur que lui inspirait l'étroite embarcation sans pont. Il pleurait, et ses larmes roulaient sur ses joues, tandis que notre canot montait et descendait au rythme des vagues. Je détournais les yeux des reflets aveuglants du soleil sur l'eau et observais d'un air impavide les quais et les bâtiments de Zilig dont nous rapprochait chaque ahan des rameurs. Le spectacle n'avait rien d'exaltant, et je compris le mépris dans lequel Péotre Ondenoir tenait la ville. Elle présentait tous les aspects les plus miteux d'un port animé. Jetés et appontements s'avançaient sans ordre dans la baie, des navires de tout type s'entassaient entre eux, pour la plupart des baleiniers crasseux et ventrus, qui dégageaient une odeur pestilentielle et indéfectible d'huile et de sang. Je remarquai aussi quelques marchands des Siduchés, un bâtiment d'allure chalcédienne et un autre qui venait peut-être de Jamaïlia. Parmi eux se faufilaient les petits bateaux de pêche qui alimentaient quotidiennement la ville bruissante d'activité, et d'autres, encore plus frêles, qui vendaient à la criée du poisson fumé, des algues séchées et de semblables denrées aux navires en partance. Une forêt de mâts se dessinait sur le ciel, et les navires à la mare grandissaient à mesure que nous approchions. Derrière eux, j'aperçus des entrepôts, des auberges à marins et des magasins d'approvisionnement où la pierre prédominait sur le bois dans la construction. Des rues étroites, parfois guère plus que des sentiers, serpentaient entre les petits bâtiments grouillants de monde. D'un côté de la baie, là où l'eau peu profonde et encombrée d'écueils ne permettait pas le mouillage, des maisonnettes de pierre s'agglutinaient au ras des vagues. Des bateaux à rames gisaient échoués au-dessus de la ligne de marée, sous des poissons éviscérés, les filets déployés, mis à sécher sur des fils comme du linge, auxquels des feux allumés dans des tranchées en dessous ajoutaient une saveur fumée, en même temps qu'ils assuraient leur conservation. Entre deux navires, je vis un groupe de gamins qui couraient à vive allure sur la grève, en poussant des cris rauques, pris dans un jeu aux règles violentes. La partie de la ville vers laquelle nous nous dirigions paraissait récente, au contraire du reste du port. Les rues y étaient larges et rectilignes. Le bois complétait la pierre et la plupart des édifices s'élevaient plus haut qu'ailleurs. Certains étages supérieurs possédaient des fenêtres aux vitres voluptées. Je me rappelais avoir entendu raconter que les dragons des six duchés avaient poussé jusqu'à cette grosse bourgade pour apporter la mort et la destruction chez nos ennemis, et de fait, les bâtiments du quartier que j'observais dataient tous de la même époque, séparés par des avenues droites et bien pavées. Cette architecture méthodique paraissait incongrue au milieu du port qui avait cru au petit bonheur la chance, et je me demandais à quoi ressemblait cette section avant que Vérité le dragon ne s'y arrêtât. Je trouvais encore plus étrange que les ravages de la guerre pussent donner naissance à tant d'ordres. Au-delà des habitations, le sol s'élevait en contreforts rocheux. De sombres conifères y courbaient les épaules dans des recoins protégés et des pistes de chariots sinuaient sur les versants où paissaient des chèvres et des moutons. Des rubans de fumée s'échappaient des arbres clairsemés, montant de chalets à peine visibles. Des sommets encore couronnés de neige se dressaient derrière eux. Nous nous présentions à marée basse, et les pontons nous surplombaient, soutenus par de gros madriers encroûtés de bernacles et de moules noires. L'échelle d'accès au quai restait mouillée de la précédente montée des flots et festonnée de guirlandes d'algues. Le prince et plusieurs barquets de nobles avaient déjà pris pied sur terre, et d'autres aristocrates de Castelserre faisaient décharger leurs affaires quand nous arrivâmes. Ils s'écartèrent de mauvaise grâce pour permettre à la garde de grimper les échelons et de former les rangs afin d'escorter le prince jusqu'à la cérémonie d'accueil. Je quittais le dernier, la petite embarcation instable après avoir obligé, avec force poussée, un lourd geignant à escalader l'échelle glissante. Une fois sur l'appontement, je l'écartais du bord et observais ce qui nous entourait. Le Headgird souhaitait la bienvenue au prince flanqué de ses conseillers. Je me tins en retrait, en compagnie de lourd, sans savoir ce qu'on attendait de moi. Il fallait que je trouve au simple d'esprit un logement confortable et loin des regards. N'aurais-je pas mieux fait de rester à bord du bateau avec lui ? Me demandai-je, inquiet devant les expressions de dégoût ou d'effarement non dissimulés que suscitait sa vue et qui ne laissaient pas présager une réception chaleureuse. À l'évidence, les Outriliens partageaient l'avis des montagnards sur les enfants déficients. Si Lourd était né à Zilig, il n'aurait pas vécu un jour. Mon double statut de bâtard et d'assassin m'avait souvent conduit à demeurer dans l'ombre pendant les cérémonies officielles, et je ne me vexais donc pas de me trouver à l'écart. Seul, j'aurais su que ma mission consistait à me mêler discrètement à la foule et à observer sans me faire remarquer. Mais en terre étrangère, encombré d'un idiot malade et découragé, vêtu d'un uniforme de garde, cela m'était impossible. Je me tins donc en dehors de la presse, ne sachant que faire de moi, et soutins lourd par le bras en écoutant les échanges appliqués de formules de bienvenue, de souhaits de bon séjour et de remerciements. Le prince paraissait bien s'acquitter de la tâche, mais son air concentré m'avertit de ne pas le distraire par un contact d'art. Les personnages qui s'étaient portés à sa rencontre provenaient de plusieurs clans, à en juger par les emblèmes animaliers représentés par leurs bijoux et leurs tatouages. C'étaient en majorité des hommes, richement parés des fourrures épaisses et des ornements qui indiquent le rang et la fortune chez les Outriliens. Mais il y avait aussi quatre femmes. Elles portaient des vêtements de laine tissée et bordés de fourrure, et je me demandais s'ils visaient à manifester la prospérité de leur propriété. Le père de la Narcheska, Archon Sangrépé, se trouvait là, avec au moins six autres représentants de son clan du sanglier. Péotre Ronde Noire l'accompagnait, un narval en ivoire sculpté au bout d'une chaîne en or autour de son cou. Je m'étonnais de ne pas voir d'autres emblèmes semblables. Il s'agissait du clan maternel d'Eliania et, selon la coutume outrilienne, de sa lignée familiale prépondérante. Nous venions mettre la dernière main au terme du mariage entre Devoir et elle, Assurément, la circonstance était importante. Pourquoi Piotr venait-il seul? Le reste du clan s'opposait-il à notre alliance? Les cérémoniales d'accueil enfin achevées, les hôtes emmenèrent le prince et sa suite. La garde forma les rangs sans moi et lui emboîta le pas. Un instant, je craignis qu'on ne nous abandonne, Lourd et moi, sur le quai, livrés à nos propres moyens. Alors que j'envisageais de graisser la patte à quelqu'un pour nous reconduire au bateau, un vieil homme nous aborda. Sous son col en poil de loup, il arborait le signe du sanglier du clan de Sangrépé, mais il n'avait pas l'apparence prospère des autres. Il croyait manifestement maîtriser ma langue, car, lorsqu'il m'adressa la parole, je réussis à comprendre un mot sur quatre environ de son discours, où il massacra le parler des Siduchés. Je ne tenais pas à l'insulter en le priant de s'exprimer en outrilien. Je pris donc patience et finis par saisir que le clan du sanglier l'avait désigné pour nous mener, Lourd et moi, à notre logement. Il ne me proposa pas de m'aider à soutenir mon compagnon. Il s'appliqua même à éviter de s'approcher de lui plus que nécessaire, comme si la déficience mentale du petit homme risquait de le contaminer à l'instar d'une infestation de poux. Je jugeais cette attitude injurieuse à l'égard de Lourd, mais je m'exhortais au calme. Il se mit en route d'un pas vif et ne ralentit pas l'allure, bien qu'il dût souvent s'arrêter pour nous attendre. À l'évidence, il préférait échapper aux regards ébahis que nous attirions. Il faut reconnaître que nous formions un étrange attelage, moi dans mon uniforme de garde, et le pauvre Lourd, l'air pitoyable, emmitouflé dans son manteau, qui marchait en titubant, accroché à mon bras. Notre guide nous fit traverser le quartier neuf, puis emprunta une rue étroite et raide. La respiration mêlée de gémissements de Lourd devint sifflante.
« C'est encore loin ?»
demandai-je d'une voix forte à l'homme qui nous devançait. Il se retourna brusquement, les sourcils froncés, et me fit signe d'un geste sec de baisser le ton. Il désigna un vieux bâtiment plus haut dans la rue, tout en pierre, et beaucoup plus grand que les maisons devant lesquelles nous étions passés dans la partie basse de la ville. Rectangulaire, le toit pointu et couvert d'ardoises, il avait deux étages. Des fenêtres perçaient les murs à intervalles réguliers. Laid, fonctionnel, solidement bâti, il faisait sans doute partie des constructions les plus anciennes de Zilig. Je hochai la tête sans rien dire. Un sanglier, les défenses et la queue levée dans une attitude de défi, étaient gravées dans la pierre au-dessus de l'entrée. Ah, ainsi, nous demeurerions dans la maison forte de ce clan. Le temps que nous contournions l'édifice pour pénétrer dans la cour, l'impatience que notre lenteur suscitait chez notre guide l'avait pratiquement réduit à mâchouiller sa propre moustache. Mais il y avait longtemps que je ne prêtais plus attention à ses manifestations d'agacement. Lorsqu'il ouvrit une porte de service et m'indiqua par geste de me dépêcher, je me redressai posément de toute ma taille et le toisa d'un œil noir. Puis, dans mon meilleur outrilien, conscient de mon piètre accent, je déclarai « Il ne sied pas aux compagnons de mon prince que nous nous hâtions. J'obéis à son autorité, non à la vôtre. » Je vis l'incertitude envahir son expression. Avait-il offensé un personnage beaucoup plus influent qu'il ne le croyait? Et c'est avec une attitude un peu plus courtoise qu'il nous conduisit, en haut de deux volées de marche, dans une pièce d'où l'on distinguait la ville et le port à travers la volute d'une vitre épaisse. J'avais assez vu l'homme. Je l'avais évalué comme un laquais sans importance, d'un chef de guerre mineur des sangliers, et je le congédiais sans aménité une fois que nous fûmes arrivés à destination. Je fermai la porte pendant qu'il restait dans le couloir, l'air indécis. J'assis Lourd sur le lit, puis étudiai rapidement notre décor. Une porte donnait sur une salle beaucoup plus imposante, et je jugeais qu'on nous avait installés dans une chambre de domestique adjacente aux appartements du prince. Le lit était médiocre, et le mobilier à l'avenant. Mais j'avais l'impression de me trouver dans un palais après le placard du bateau. « Ne bouge pas, » dis-je à Lourd, « mais ne t'endors pas tout de suite. »«
Où on est? Je veux rentrer à la maison. »
marmonna-t-il. Sans lui prêter attention, je passai discrètement chez le prince, où je me munis d'un broc d'eau, d'une cuvette et de serviettes. J'avisai une assiette pleine sur la table, incapable d'identifier la pâte noire et poisseuse coupée en cubes. J'en pris néanmoins plusieurs morceaux, ainsi que d'un gâteau d'aspect huileux saupoudré de graines. L'ours s'était effondré sur le lit. Non sans mal, je le redressai, puis, malgré ses geignements de protestation, je l'obligeai à se laver la figure et les mains. Je regrettai l'absence de baquet, car plusieurs journées de mal de mer lui avaient laissé une forte odeur. Ensuite, je le forçai à manger, puis à boire un verre de vin. Il ne cessa de se plaindre et de geindre au point de se déclencher un hoquet. Un moment, je le sentis lancer son art contre moi, mais sans force et puéril, son assaut n'effleura même pas mes remparts. J'ôtai sa tunique, ses chaussures, et le mis au lit.
« La chambre remue encore !»
ronchonna-t-il, puis il ferma les yeux et resta immobile. Peu après, il poussa un long soupir, étendit ses membres et sombra dans le sommeil. Les paupières closes, je m'introduisis à pas de loup dans son rêve. Le chaton dormait, roulé en une petite boule de poils sur l'oreiller brodé. Il se sentait en sécurité. Je rouvris les yeux, pris soudain d'une si grande fatigue que j'aurais pu m'allonger par terre et m'assoupir aussitôt. Je réfrénai mon envie et fis une rapide toilette avec ce qui restait d'eau propre. Je goûtai les mets sur la table du prince, les trouvai déplaisants et mangeai tout de même. La préparation huileuse se voulait sans doute une sorte de pâtisserie. L'autre plat présentait un puissant fumet de pâte de poisson. Le vin était une boisson à base de fruits fermentés, mais là s'arrêtaient mes hypothèses quant à sa nature. En tout cas, il ne parvint pas tout à fait à chasser le goût de marée de ma bouche. Ensuite, je sortis pour visiter notre résidence, la bassine d'eau sale à la main. Si on m'interrogeait, je répondrais simplement que je cherchais où la vider. Le bâtiment tenait autant de la place forte que du siège de clan. Nous nous trouvions au dernier étage et aucun bruit ne trahissait la présence d'autres occupants. Les murs s'ornaient de motifs de sangliers et de défenses peints ou gravées. Les portes du couloir n'étaient pas fermées à clé et paraissaient ouvrir alternativement sur de petites pièces, comme celle de Lourdes, et de plus vastes au mobilier plus abondant. Aucune n'égalait le confort des appartements réservés aux visiteurs à Castelserre, même ceux des plus petits nobliaux. Mais je réservais mon jugement. Les Outriliens ne souhaitaient sans doute pas nous insulter. Leur hospitalité obéissait à des coutumes différentes des nôtres. En règle générale, il était entendu que les invités se chargeaient eux-mêmes de leur restauration et de leur commodité, et nous le savions en arrivant. Le vin et l'assiette garnie que j'avais trouvée dans le logement du prince représentaient sûrement un remerciement pour l'hospitalité dont l'entourage de l'Anarchesca avait bénéficié à Castelserre. Je ne vis nul signe de domestique à l'étage que nous occupions, et il m'eût étonné qu'on nous en fournît. Celui du dessous paraissait identique. À l'odeur, les pièces avaient servi récemment, fumée, graillon et, dans un cas, chien mouillé. Les avait-on évacués pour notre usage? De dimensions légèrement inférieures, elles possédaient des fenêtres obturées par des pots huilés au lieu de vitres. D'épais volets de bois, sur certains desquels je remarquais d'anciennes éraflures de flèches, protégeaient les ouvertures contre tout assaut. Manifestement, on réservait les chambres les plus haut placées aux personnages des rangs les plus élevés, au contraire des six-duchés, où l'on logeait les domestiques aux étages supérieurs afin d'éviter à la noblesse de gravir de trop nombreux escaliers. Je venais de refermer une porte quand j'entendis des pas sur les marches, et une colonne de serviteurs apparut soudain, les bras chargés d'affaires, de petits meubles et de provisions pour leur maître des six-duchés. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du couloir, l'air désorienté, et l'un d'eux me demanda
« Comment sait-on quel appartement est destiné à qui ?»«
Aucune idée, » répondis-je d'un ton enjoué. « Je ne sais même pas où l'on jette les eaux usées. » Et je m'éclipsais, les laissant se débrouiller pour choisir les chambres. Quelque chose me disait que les meilleurs reviendraient au maître des domestiques les plus agressifs. Au rez-de-chaussée, je repérais une sortie sur le dehors et découvris derrière les latrines une fosse à rebut où je vidais ma cuvette. Un autre huis débouchait sur un couloir qui menait à une grande cuisine où plusieurs jeunes Outriliens surveillaient la cuisson d'un énorme rôti à la broche tout en coupant des pommes de terre et des oignons en rondelles et en pétrissant de la pâte à pain. Apparemment très absorbés, C'est à peine s'ils me remarquèrent quand je passai la tête par la porte entrebâillée pour jeter un coup d'œil. Un tour rapide du bâtiment par l'extérieur me permit de trouver une autre porte, beaucoup plus imposante et solennelle, donnant sur une vaste salle qui occupait presque toute la superficie de l'édifice. Grande ouverte, la porte double laissait pénétrer l'air et la lumière. À l'intérieur, je distinguais des gens assemblés, sans doute pour la cérémonie de bienvenue du prince. J'abandonnai ma cuvette dans l'herbe haute, à un angle du bâtiment, ajustai en hâte mon uniforme et nouai mes cheveux en queue de guerrier. Discrètement, je me faufilai au fond de la salle. Les autres gardes se tenaient alignés le long du mur, avec le regard vif typique des hommes qui s'ennuient à mourir et à qui nul ne prête attention. À la vérité, leur protection paraissait un peu superflue. Des bancs prenaient la majeure partie de la longue pièce au plafond bas. Tous de la même hauteur, ils étaient aussi tous occupés. Je ne voyais ni trône, ni estrade d'aucune sorte, et la disposition des bancs ne dirigeait l'attention sur personne en particulier. Placés en cercle concentrique, ils dégageaient seulement un espace nu en leur milieu. Courbé par les ans, un Khaempra, ou chef de guerre, du clan du renard avait la parole. À l'ourlet de sa veste courte pendaient des extrémités de queue de renard aussi blanches que sa tignasse. Il manquait trois doigts à sa main d'épée, mais en compensation, il arborait un collier confectionné avec les phalanges de ses ennemis. Il les tiraillait à gestes nerveux, tout en parlant, et lançait de fréquents coups d'œil à son grépé. Comme s'il ne tenait pas à se montrer insultant, mais ne pouvait contenir sa trop grande colère. Je n'entendis que ces mots de conclusion.
Un seul clan ne peut parler au nom de tous. Un seul clan n'a pas le droit d'attirer la malchance sur tous.
Là-dessus, le Khaempra du renard salua gravement de la tête les quatre angles de la salle et regagna son banc. Un autre homme se dressa, se rendit au centre et prit la parole. Je vis le prince et Sire Imbre assis parmi les nobles qui les assistaient. Le clan de Vif se tenait derrière Devoir. Le Edgurd, car j'identifiais ainsi l'assemblée, réunion des chefs de guerre des clans, n'accordait aucune reconnaissance de rang à mon prince. Il siégeait comme un chef au milieu de ses guerriers, à l'instar des autres hommes présents. Tous ici étaient venus en égaux discuter les fiançailles de la Narcheska. Mais considérait-il vraiment le prince comme un égal? Je sentis mon expression s'assombrir à cette question et m'efforçai de rester impassible. J'avais vu tout cela dans le laps de temps qu'il avait fallu à mes yeux pour s'habituer à la pénombre après l'éclat du soleil d'été. Je trouvais un bout de mur libre et m'adossai à côté de Crible, dans la dernière rangée des gardes. Le jeune homme me dit du coin de la bouche « On est loin de chez nous, mon vieux. Pas de banquet, pas de cadeau, pas de chanson pour accueillir notre prince. Un simple « bonjour, ça va » sur le quai et hop, ils l'ont conduit tout droit ici pour discuter des fiançailles. On ne se perd pas en détour avec ces gens-là. Certains voient d'un sale œil qu'une de leurs femmes quitte sa terre maternelle pour s'installer dans les six duchés. Pour eux, c'est contre nature et ça porte sûrement malheur. Mais la majorité des autres s'en fiche. De leur point de vue, si je comprends bien, la malchance retomberait sur le clan du Narval, pas sur eux. Non, ce qui coince vraiment, c'est le dragon que le prince doit tuer. Je hochai la tête, saluant le résumé succinct de Crible. Imbre avait choisi une bonne recrue. Un instant, je me demandais où il l'avait trouvé. Puis je me concentrais sur l'orateur et observais qu'il se tenait au milieu d'un motif circulaire peint au sol. Complexe et stylisé, on y reconnaissait néanmoins un serpent qui se mordait la queue. L'homme ne déclina pas son identité avant d'entamer son discours. Peut-être la supposait-il connue de tous, à moins que le plus important ne fût la loutre de mer tatouée sur son front. Il s'exprimait avec simplicité, sans colère, comme s'il expliquait une évidence à un enfant obtus. « Glacefeu n'est pas une vache. Il n'appartient à aucun de nous. Ce n'est pas une tête de bétail qu'on peut donner en dot à une femme, et il appartient encore moins au prince étranger. Comment peut-il offrir le chef d'une créature qui n'est pas à lui en paiement à la maison maternelle onde noire du clan du Narval? Il n'y a que deux façons de considérer sa promesse. Il l'a faite soit par ignorance, soit par volonté de nous insulter. » Il s'interrompit et exécuta un geste étrange de la main. J'en compris la signification un instant après, quand Devoir se leva lentement et alla rejoindre l'homme dans le cercle de l'orateur. « Non, Kaïm Praloutre. » Le prince s'adressait à lui en tant que chef de guerre de son clan. « Il ne s'agit ni d'ignorance ni d'insulte. La Narcheska m'a présenté cette entreprise comme un défi destiné à prouver que je suis digne d'elle. » Il écarta les mains et les laissa retomber d'un air d'impuissance. « Que pouvais-je faire sinon le relever ? Si une femme vous lançait semblable défi en disant devant tous vos guerriers « Acceptez-le ou avouez votre lâcheté », quelle réponse lui donneriez-vous ? Quelle réponse donneriez-vous tous, autant que vous êtes ? » La question lui valut de nombreux hochements de tête approbateurs dans l'assemblée. Devoir les rendit gravement, puis reprit. « Qu'attend-on de moi maintenant ? J'ai donné ma parole, devant vos guerriers et les miens, dans la grande salle de mes parents. J'ai déclaré que je tenterais cet exploit. Je ne vois aucun moyen honorable de me dédire. Existe-t-il une coutume dans le peuple de la Narcheska qui permette à un homme de revenir sur les mots qui ont franchi ses lèvres ? » Il agita la main à l'imitation du geste dont s'était servi le Kaempra des Loutres pour lui céder le cercle de l'orateur. Il s'inclina en direction des quatre coins de la salle et retourna sur son banc. Comme il se rasseyait, la loutre prit sa place. « Si c'est ainsi que vous avez relevé le défi, je ne vous prête aucune volonté d'offense. Je garde pour moi ce que je pense de la fille du clan Onde Noire qui s'est permis de lancer une telle gageure, ce que n'excuse aucune circonstance. » J'avais noté la présence de Piotr Onde Noire, seul ou presque sur un des bancs du premier rang. Il s'assombrit en entendant la réponse de la loutre, mais ne manifesta pas qu'il désira parler. Le père de la Narcheska, Arkon Sangrépé, se trouvait non loin de lui, entouré de ses guerriers du sanglier. Son front resta serein comme si le reproche ne le concernait pas, ce qui était peut-être le cas de son point de vue. La loutre avait désigné Eliania par son statut de fille de la famille Onde Noire du clan du Narval. Or, Arkon appartenait au clan du sanglier. Chez lui, au milieu de son peuple, il jouait le rôle qu'on attendait de lui, celui de père de la Narcheska et rien de plus. La qualité de son éducation ne dépendait pas de lui, mais de l'oncle maternel d'Eliania, Piotr Onde Noire. Le silence s'éternisait. À l'évidence, nul ne souhaitait prendre la défense de la jeune fille, et le chef des loutres finit par s'éclaircir la gorge. Vous ne pouvez vous dédire, en effet, prince du clan du cerf loinvoyant. Vous vous êtes engagé à tenter d'accomplir cette mission et je concède que vous devez vous y tenir, sous peine de perdre la face en tant qu'homme. Toutefois, nous autres, des îles d'outre-mer, n'en sommes pas relevés de nos devoirs pour autant. Glacefeu est à nous. Que nous disent les grandes mères ? Il est venu à nous dans les années où l'on ne comptait pas encore les années, et il a demandé asile pour oublier sa peine. Nos femmes sages le lui ont accordé. En échange du refuge que nous lui offrions, il a juré de nous donner sa protection. Nous savons la puissance de son esprit et l'invulnérabilité de sa chair, et nous ne craignons guère que vous le tuiez. Mais si par quelque étrange tour du sort, vous réussissiez à le blesser, sur qui s'abattra sa colère après qu'il se sera vengé de vous ? Sur nous ! Il tournait lentement sur lui-même pour englober tous les clans dans sa mise en garde. « Si Glacefeu est à nous, nous lui appartenons aussi et nous devons considérer comme un serment familial la double promesse qui nous lie. Si son sang coule, ne devons-nous pas à notre tour faire couler le sang ? Si nous, ses frères, ne lui venons pas en aide, n'est-il pas en droit d'exiger 10 fois le prix de notre faute en sang, ainsi que le prévoit notre loi ? Le prince doit honorer sa parole d'homme. C'est ainsi. Mais qu'il meure ou survive, la guerre ne s'ensuivra-t-elle pas obligatoirement ?
Je vis Harkon s'engripper et prendre une longue inspiration. Et je remarquai qu'il tenait sa main d'une curieuse façon, ouverte, mais les doigts pointés vers son sternum. Je notai aussi que plusieurs autres membres de l'assemblée l'imitaient.
Une demande d'autorisation de parler ?
Oui. Quand le guerrier de la loutre fit le geste désormais familier, Sangrépé se leva et alla prendre sa place dans le cercle.
Personne ne désire la guerre. Ni chez nous, dans les ruines du dieu, ni de l'autre côté des eaux, dans les champs des fermiers du prince. Pourtant, la parole d'un homme doit être honorée. En outre, bien qu'il n'y ait pas de femme dans cette salle, la volonté de l'une d'elles pèse dans cette affaire. Or, quel guerrier peut s'opposer à la volonté d'une femme ? Quelle épée est capable de trancher sa résolution ? Aux femmes, Edda a donné les îles, et nous y marchons par sa seule permission. Les hommes n'ont pas à dédaigner le défi d'une femme, de crainte que nos propres mères déclarent « Vous ne respectez pas la chair dont vous êtes issus. Ne foulez plus la terre qu'Edda nous a confiée. Soyez rejetés par nous, n'ayez plus que de l'eau sous votre quille et jamais de sable sous vos pieds. Est-ce préférable à la guerre ? Nous nous trouvons pris entre la parole d'un homme et la volonté d'une femme. Enfreindre l'une ou l'autre ferait le déshonneur de tous. »
J'avais compris le discours de Sangrépé, mais sa portée m'échappait. À l'évidence, il se référait à une tradition inconnue de moi, et je me demandais où nous entraînaient les accordailles du prince. N'étions-nous pas tombés dans un piège ? La famille Onde Noire du Narval cherchait-elle à rallumer le conflit entre les six duchés et les îles d'outre-mer ? Eliania avait-elle servi d'appât pour nous attirer dans une situation qui ne pouvait aboutir, quelle qu'en fût l'issue, qu'à rougir de sang nos côtes, une fois de plus ? J'étudiais l'expression de Péotre. Impassible, le regard absent, il paraissait indifférent au dilemme où nous plongeait sa fille-sœur, et pourtant, je sentais qu'il n'en était rien. J'avais plutôt l'impression que nous tenions en équilibre sur la lame qui le poignait déjà. Et je songeais tout à coup qu'il avait l'air d'un homme privé de tout choix, qui n'a plus d'espoir parce qu'aucun acte de sa part ne peut plus le sauver. Il ne faisait rien. Il ne prévoyait plus rien. Il avait accompli la tâche qu'il s'était fixée. Désormais, il ne pouvait plus qu'attendre de voir comment d'autres mèneraient la suite. Certain d'avoir raison, je restais pourtant impuissant à comprendre et même à imaginer ses motifs. Pourquoi avoir agi ainsi ? Ou bien, comme Harkon l'avait dit, n'avait-il aucun recours devant la volonté d'une femme qui, bien que plus jeune et dépendante de lui, avait le pouvoir de décider qui foulait la terre de ses propriétés maternelles ? Je parcourus l'assemblée du regard. Nous étions trop différents. Comment les six duchés concluraient-ils jamais la paix avec les îles d'outre-mer alors qu'un si grand abîme séparait leurs coutumes ? Pourtant, selon la tradition, notre lignée royale plongeait ses racines dans l'archipel. Preneur, le premier souverain loin-voyant, était à l'origine un pirate d'outre-mer qui avait repéré la forteresse de Castelserre, alors en bois, et décidé de s'en emparer. Nos us et notre organisation sociale avaient suivi des voies très divergentes depuis. Il nous fallait absolument trouver un terrain d'entente pour assurer la paix et la prospérité. Les chances d'y parvenir me paraissait mince. Levant les yeux, je vis Devoir qui me regardait. Je n'avais pas osé le distraire jusque-là. Je lui transmis une pensée rassurante. L'ours repose dans sa chambre à l'étage. Il a bu et mangé avant d'aller au lit.
J'aimerais pouvoir l'imiter.
Je n'ai même pas eu le temps de me débarbouiller avant cette réunion du Hedgurd, dont je ne vois pas la fin.
Patience, mon prince. Elle s'achèvera. Même les Outréliens doivent se restaurer et dormir de temps en temps.
Se vide-t-il la vessie, à votre avis? En ce qui me concerne, la question devient de plus en plus urgente. J'ai envisagé de demander discrètement à sortir, mais j'ignore comment ces gens interpréteraient de me voir quitter la salle en pleine séance.
Je sentis un frôlement d'armes à la droite et un frisson glacé me parcourut.
Lourd.
C'était Humbre. Je vis devoir tendre la main vers celle du vieillard pour lui prêter son énergie. Je l'arrêtai.
Non. Laissez-le essayer seul. Humbre. Nous entendez-vous?
À peine.
Lourd dort au deuxième étage. Il a bu et mangé avant de se coucher.
Bien.
Je perçus l'effort que lui coûta cette brève réponse. Néanmoins, je me réjouis. Il parvenait à artiser.
Cesse, sourire idiot,
me réprimanda-t-il. Il parcourut la salle d'un regard grave.
Mauvaise situation. Besoin de réfléchir. Bloquer la discussion avant qu'elle n'aille trop loin sans nous.
Je me composais une expression solennelle, plus assortie à celle de mes voisins. Harkon s'engrippait, laissait le cercle à un homme qui arborait l'emblème de l'aigle. En se croisant, ils se serrèrent le poignet à la mode des guerriers, puis l'aigle prit la place de l'orateur. Le Kaempra était vieux, peut-être le plus âgé des membres de l'assemblée. Des mèches grises et blanches striaient ses cheveux qui se raréfiaient. Pourtant, sa démarche restait celle d'un combattant. Il balaya les visages qui l'entouraient d'un regard accusateur, puis, sans crier gare, il entama son discours. Ses dents manquantes faisaient chuinter la fin de ses mots.
« Un homme doit accomplir ce qu'il a promis. C'est évident. Nous perdons notre journée à discuter ce point. Les hommes doivent aussi honorer leurs liens familiaux. Si ce prince étranger se présentait en déclarant « J'ai juré à une femme de tuer Aurig du clan de l'aigle », tous ici vous répondriez « Dans ce cas, tu dois t'y efforcer si tu en as fait le serment ». Mais vous ajouteriez « Sache toutefois que certains d'entre nous partagent des liens familiaux avec Aurig » et que nous te tuerons avant que tu tiennes ta parole. Et le prince devrait accepter cela aussi.
Lentement, il parcourut l'assemblée d'un œil plein de dédain.
Je sens ici l'odeur de marchands et de commerçants qui étaient autrefois des guerriers. Mais des hommes honorables. Allons-nous nous vautrer à terre pour obtenir les denrées des six duchés comme une bande de corgnaux devant une chienne en chaleur? Êtes-vous prêt à vendre vos sœurs contre de l'eau de vie, des pommes d'été et du blé rouge? Pas cet aigle!
Et il poussa un grognement de mépris qui coupa court à toute discussion. Il quitta le cercle et regagna sa place parmi son escorte. Le silence tomba pendant que tous réfléchissaient à ses paroles. Certains échangèrent des regards et je compris que le vieillard avait touché un point sensible. Beaucoup éprouvaient de la gêne à l'idée de laisser le prince tuer le dragon, mais ils avaient aussi soif de paix et le négoce attisait leur convoitise. La guerre avec les six duchés les avait coupés de tout commerce avec les ports au sud de notre royaume. Et le conflit entre Khalsed et les marchands de Terrilville bloquait à nouveau cette route. S'ils n'accédaient pas au libre-échange avec nous, ils devraient se passer des produits et des articles de luxe que pouvaient leur procurer nos contrées plus clémentes, et cette perspective n'avait sûrement rien de réjouissant. Cependant, aucun ne pouvait s'élever contre la vie de l'aigle, sans passer pour un épicier cupide.
Il faut mettre fin à la réunion sans attendre, avant qu'aucun n'ait le temps de soutenir publiquement sa déclaration. »
Dans son mince filet d'art, je sentais Humbre aux abois. Nul n'alla se placer dans le cercle de l'orateur. Personne n'avait de solution à proposer. Plus le silence durait, plus la tension montait. Humbre avait raison, je le savais. Il nous fallait du temps pour réfléchir à une issue diplomatique, à notre situation, et à défaut, pour déterminer combien de clans s'opposeraient activement à nous et combien se borneraient à une simple condamnation de notre entreprise. Étant donné la désapprobation générale, l'anarchesca maintiendrait-elle le défi lancé à devoir, ou bien le retirerait-elle? Existait-il un moyen honorable pour elle de le révoquer? Nous avions abordé les îles d'outre-mer depuis moins d'une journée, et déjà, nous nous trouvions au bord de l'affrontement. Mon malaise s'accroissait encore du besoin pressant d'uriner de devoir, toujours plus présent à ma conscience. Alors que je m'apprêtais à m'en protéger, une idée me vint. La détresse de l'ours due à son mal de mer avait contaminé l'équipage de notre navire. Ne pouvait-on utiliser la gêne du prince de la même manière? Je m'ouvris à son émission involontaire, l'amplifiais, puis diffusais mon art dans toute la salle. Aucun des outriliens que je touchais ne possédait une grande disposition pour cette magie, mais beaucoup réagissaient à son influence à des degrés divers. Jadis, Vérité avait employé une technique semblable pour désorienter les navigateurs des pirates rouges, les convaincre qu'ils avaient déjà doublé certains amers clés et drossé ainsi leur vaisseau sur les écueils. Je m'en servais aujourd'hui pour clore la réunion du Hedgurd, en inspirant à ceux sur qui mon art faisait effet un besoin urgent de se vider la vessie. Partout, des hommes se mirent à s'agiter sur leurs bancs.
« Que fais-tu ?»«
Je mets un terme à l'assemblée, » répondis-je d'un ton farouche.
« Ah !»
Je perçus la soudaine compréhension de devoir, puis il joignit sa force de persuasion à la mienne.
« Qui dirige le Hedgurd ?» lui demandai-je.
« Personne. Tout le monde partage l'autorité, du moins, ils le prétendent. » Manifestement, l'efficacité du système ne convainquait pas de voir.
Ours a ouvert réunion,
intervint Humbre, et il attira mon attention sur un homme qui arborait un collier en dents d'ours. Je sentis tout à coup combien il fallait d'énergie au vieillard pour cet exercice d'art qui n'en exigeait pourtant guère.
Ne vous épuisez pas, lui dis-je.
Connais ma propre force.
Il avait répondu avec violence, mais, de ma place, je voyais ses épaules s'affaisser peu à peu. J'isolais l'ours de ses voisins et me concentrais sur lui. Par bonheur, il avait des murailles d'art inexistantes et la vessie pleine. J'accrus son envie de la soulager et il se leva soudain puis s'avança pour demander le cercle. Les autres le lui accordèrent du geste.
« Il nous faut réfléchir à cette affaire, » dit-il. « Séparons-nous. Parlons avec nos clans respectifs. » Et voyons quels sont leurs avis. Demain, réunissons-nous à nouveau et discutons de ce que nous aurons appris et de nos idées. Est-ce raisonnable, croyez-vous ?
Comme une houle tournant autour de la salle, une forêt de mains se dressa en signe d'assentiment.
Alors, que l'assemblée se dissolve pour ce jour,
déclara l'ours. Et sans autre forme de procès, tout fut terminé. Les hommes quittèrent aussitôt leur siège et commencèrent à se diriger vers la sortie, sans cérémonie. Sans préséance pour les personnages de haut rang, tous se pressèrent vers la porte, certains plus énergiquement que d'autres.
« Prévenez votre capitaine que vous devez vous rendre auprès de votre malade et que votre prince vous commande de continuer à vous occuper de lui tant qu'il n'aura pas recouvré la santé. Nous vous rejoindrons bientôt à l'étage. »
J'obéis à l'ordre de devoir. Quand Longue Mèche me donna congé, je récupérai la cuvette à l'angle du bâtiment et remontai chez l'ours. Autant que je pusse m'en rendre compte, il n'avait pas bougé. Je posai la main sur son front, toujours chaud. Il était toutefois moins brûlant qu'à bord du navire. Je le réveillai tout de même pour lui offrir à boire. Je n'eus guère à insister pour lui faire ingurgiter une chope pleine, après quoi il se rallongea. Je me sentais soulagé. Dans cette pièce inconnue, Avec plus de recul que dans le placard où il gisait pendant le voyage, je prenais la mesure exacte de son état de délabrement. Mais je savais que tout était réuni pour son rétablissement. Du calme, un vrai lit, à manger et à boire. Sa santé s'améliorerait bientôt. Je m'efforçais de me convaincre que je ne me berçais pas d'illusions. J'entendis le prince et Imbre parler avec quelqu'un dans le couloir. Je me levai, m'approchai discrètement de la porte et y appliquai mon oreille. Je perçus le ton las et suppliant de devoir, puis le bruit de lui voisin qui se fermait. Ses domestiques avaient dû l'attendre dans ses appartements, car un murmure de conversation me parvint et, pour finir, devoir les congédia. Quelques moments passèrent, puis la porte de communication s'ouvrit et le prince entra, un des petits cubes noirs de l'assiette à la main. Il paraissait démoralisé. Levant le cube, il me demanda « Vous savez ce que c'est ?»« Pas exactement, mais ça contient de la pâte de poisson et des algues aussi, peut-être. Le plat saupoudré de graines est sucré, huileux mais sucré. » Il regarda la chose avec dégoût, puis, avec le haussement d'épaule d'un adolescent de 15 ans qui n'a rien mangé depuis plusieurs heures, il la mâcha et l'avala. Il se lécha les doigts. « Pas mauvais, du moment qu'on est prévenu du goût de poisson ?»« De vieux poisson, » précisai-je. Sans répondre, il se dirigea vers l'our qu'il contempla en secouant lentement la tête. « Quelle injustice ! Croyez-vous qu'il se remet ?»« Je l'espère. » Sa musique est tellement atténuée que cela me préoccupe. J'ai parfois l'impression qu'il s'éloigne de nous quand la fièvre le gagne. Je m'ouvris à l'art. Il avait raison. La mélodie paraissait moins intense. Bah, il est malade et il faut de l'énergie pour artiser. Je ne voulais pas l'inquiéter. Imbre m'a étonné aujourd'hui. Vraiment ? Vous deviez pourtant vous douter qu'il s'acharnerait jusqu'à ce qu'il parvienne à un résultat ? Rien ne l'arrête une fois qu'il a pris une décision. Il se détourna pour se rendre dans ses appartements, puis s'arrêta et jeta par-dessus son épaule. « Désirez-vous de ce mets bizarre ?»« Non merci, mais ne vous gênez pas pour moi. » Il disparut un moment par la porte, puis revint, une main pleine de cubes noirs. Il mordit dans l'un d'eux, fit une grimace de révulsion, puis le termina rapidement. Il parcourut la chambre du regard, l'air affamé. « Personne n'a encore apporté de victuailles ?» À mon avis, vous êtes en train de les manger. Non, ça c'est un geste des Outriliens pour nous remercier de leur avoir fourni le couvert chez nous. Imbre a donné pour instruction aux domestiques de nous acheter des produits frais. Vous pensez donc que le clan du sanglier ne compte pas subvenir à nos repas? C'est possible, je n'en sais rien. D'après Imbre, mieux vaut prendre nos précautions. Ainsi, si nos hôtes nous proposent de partager leur cuisine, nous pourrons l'accepter comme un présent de leur part. Dans le cas contraire, nous ne passerons pas pour des mendiants ni des incapables. Avez-vous mis les nobles de votre entourage au courant de ces coutumes ? Il acquiesça de la tête. Beaucoup viennent forger de nouvelles alliances commerciales et voir quelles autres affaires s'offrent à eux autant que m'apporter leur appui pour courtiser la Narcheska. Ils sont donc ravis de parcourir Zilig pour se rendre compte de ce qui s'y vend et des denrées qui pourraient y trouver acquéreurs. Mais nous devrons pourvoir aux besoins de ma garde, des serviteurs et naturellement de mon clan de vifs. Je pensais qu'Imbre avait tout arrangé. « Le Edgur ne paraît guère vous accorder de respect, » dis-je, soucieux. « À mon avis, ces gens ne comprennent pas vraiment mon statut. Qu'un garçon de mon âge, qui n'a pas fait ses preuves en tant que guerrier, soit assuré de gouverner un territoire aussi étendu que les six duchés, doit dépasser leur entendement. Ici, les hommes ne règnent pas sur la terre, mais montrent leur puissance par le nombre de combattants qu'ils commandent. Par certains aspects, j'apparais chez eux comme le fils de ma maison maternelle. La reine Kétriken tenait le pouvoir quand nous les avons vaincus à la fin de la guerre des pirates rouges, et elle leur inspire une révérence sans borne d'avoir su non seulement préserver son royaume, mais encore porter le fer chez eux sous la forme de dragons qu'elle a lancé contre eux. C'est ainsi qu'on présente l'histoire ici.
On dirait que vous en avez appris beaucoup en très peu de temps.
Il hocha la tête, l'air satisfait de lui-même.
Pour partie, je tiens mes connaissances du recoupement de ce que j'entends ici et de ce que j'ai vu des Outriliens à Castelcerre. Le reste provient de mes lectures pendant le voyage.
Il poussa un petit soupir.
Et elle ne se révèle pas aussi utile que je l'espérais. S'il nous offre l'hospitalité, c'est-à-dire qu'il pourvoit à nos repas,
nous pouvons considérer cette attitude comme un moyen de nous faire bon accueil et de nous montrer qu'ils connaissent notre coutume et l'honore. Nous pouvons aussi la regarder comme une façon de nous insulter, de nous faire comprendre que nous sommes trop faibles pour nous nourrir seuls et trop stupides pour l'avoir anticipé. Mais, quel que soit notre point de vue, nous ignorons quel est le leur.
Comme en ce qui concerne le dragon. Venez-vous tuer un animal et prouver par là que vous représentez un parti digne de la Narcheska, ou bien venez-vous tuer le dragon protecteur de leur pays et démontrer que vous pouvez vous emparer de ce qui vous plaît chez eux.
Devoir pâlit imperceptiblement. Je n'avais pas envisagé la situation sous cet angle.
Moi non plus, mais certains Outréliens si, assurément, ce qui nous ramène à la question centrale. Pourquoi ?
Pourquoi la Narcheska vous a-t-elle imposé cette quête ? Vous croyez donc qu'elle y attache une importance autre que celle de me voir risquer ma vie pour l'épouser ?
Je restais un instant à le dévisager, sidéré.
Avais-je jamais été aussi jeune ?
Évidemment, pas vous.
D'après Civil, elle désire sans doute la preuve de mon amour. À l'en croire, les filles agissent souvent ainsi. Elles demandent aux hommes de réaliser des actes dangereux, illégaux ou quasi impossibles, rien que pour prouver leur amour.
J'en pris bonne note. Qui avait exigé quoi de Civil ? Était-ce en relation avec la monarchie loinvoyant, ou bien s'agissait-il seulement d'une démonstration d'audace puérile qu'une demoiselle quelconque l'avait mis au défi d'exécuter ?
Ma foi, je doute que, dans le cas de la Narcheska, nous ayons affaire à la simple lubie d'une jeune fille exaltée. Comment pourrait-elle imaginer que vous l'aimiez après la façon dont elle vous a traité ? Et assurément, de son côté, elle n'a manifesté en rien qu'elle appréciât votre compagnie.
L'espace d'un éclair, il me regarda d'un air bouleversé. Puis, il lissa son expression si bien que je crus avoir rêvé. Le prince ne s'était tout de même pas amouraché de cette fille. Ils n'avaient rien en commun. Et, après qu'il l'avait insultée involontairement, elle avait eu pour lui les mêmes égards que pour un chien battu gémissant à ses pieds. Je scrutais son visage. À 15 ans, on est prêt à croire à peu près n'importe quoi.
Devoir poussa un petit grognement de dédain. Non, en effet, rien dans son attitude ne laissait penser qu'elle supportât ma présence. Et, maintenant que j'y songe, elle n'a pas accompagné son père et son oncle pour nous accueillir dans ses îles. Elle a eu l'idée de ce défi ridicule, mais j'observe qu'elle brille par son absence, maintenant qu'elle doit le justifier aux yeux de ses compatriotes.
Vous avez raison. Peut-être cette quête vise-t-elle non à me permettre de prouver mon amour pour elle, ni même mon courage, mais à faire obstacle à notre mariage.
D'un ton lugubre, il ajouta « Elle espère peut-être que j'y laisserai la vie. »
Si nous persistons à vouloir mener cette entreprise à bien, nous risquons de mettre en péril plus que votre union. Nous pourrions bien rallumer la guerre entre nos deux pays. Imbre arriva sur ces entrefaites. Il paraissait à la fois soucieux et fatigué. Il parcourut la petite chambre d'un œil dépréciateur et déclara
« Eh bien, je constate que l'Our jouit d'appartements presque aussi luxueux que ceux du prince de Voir et les miens. Y a-t-il de quoi se restaurer ?»«
Rien que je saurais vous conseiller, » répondis-je.
« Du gâteau à la graisse de poisson, » fit Devoir en même temps. Une grimace de dégoût plissa le visage d'Imbre.
« C'est tout ce qu'on peut acheter par ici ?» Je vais envoyer chercher des provisions du bateau. Après une pareille journée, je supporterai mal de manger de la cuisine exotique. Allons, laissons l'Our se reposer, »
ajouta-t-il par-dessus son épaule, en passant la porte de communication qui donnait sur l'appartement du prince. Il s'assit sur le lit de Devoir et poursuivit.
« Je n'aime pas que tu emploies l'art de façon aussi vile, Fitz. Je dois admettre toutefois que tu nous as sorti d'un fameux guépier. À l'avenir, réfère-t'en à moi avant semblable initiative, je te prie. »
C'était à la fois une réprimande et un compliment. Je courbai la tête, mais Devoir se rebiffa.
« Qu'il s'en réfère à vous ? Et moi, n'ai-je donc pas voix au chapitre ?»
Le vieux conseiller rattrapa son faux pas avec une adresse consommée.
« Si, mon prince, naturellement. J'avise simplement Fitz qu'en matière diplomatique, il doit éviter de se croire le mieux à même de prendre des décisions. »
L'adolescent s'apprêtait à répondre quand on frappa à lui.
Sur un geste d'Imbre, je reculai jusque dans la chambre de Lour. Poussai la porte, en ne laissant qu'un mince entrebâillement, et trouvai une position qui me permettait, invisible, de voir une partie de la pièce. Imbre demanda
« Qui est-ce ?»
Le visiteur interpréta la question comme l'autorisation d'entrer. Le bâton s'ouvrit et, alors que je bandais mes muscles, Péotr Rondenoir parut. Il ferma derrière lui, puis s'inclina à la manière de Castelserre devant le prince et Imbre. «
Je viens vous dire que vos nobles, et vous, n'avez nul besoin de vous préoccuper de votre approvisionnement de bouche. Les clans du sanglier et du narval s'honoreront de subvenir à vos besoins avec la même générosité dont vous avez fait preuve envers nous lors de notre voyage au Ciduché. »
Il avait prononcé la déclaration avec une diction irréprochable. Il l'avait répété assidûment. Imbre répondit avec une courtoisie tout aussi impeccable.
« C'est fort gracieux de votre part, mais notre entourage et nous-mêmes avons prévu nos vivres. »
L'espace d'un instant, Péotr eut l'air gêné, puis il dit
« Nous avons déjà prévenu vos nobles de notre invitation, et pour notre grand honneur, ils l'ont tous accepté. »
Imbre et le prince se turent dans une attitude guindée, mais la déconcertation inquiète de devoir résonna dans mon esprit.
J'aurais dû les avertir de refuser toute offre d'hospitalité à laquelle je n'avais pas donné mon aval. Allons-nous passer pour des incapables désormais ?
Le regard troublé de Péotr passa d'Imbre au prince. Il paraissait se rendre compte qu'il avait commis une erreur.
« Puis-je m'entretenir un moment avec vous ? » demanda-t-il à Devoir, après un instant de silence.
« Seigneur Rondenoir, vous trouverez toujours ma porte ouverte pour vous, » répondit l'adolescent par réflexe. Un sourire imperceptible joua sur les lèvres de Péotr.
« Je ne suis pas un seigneur, vous le savez bien, prince Devoir, mais seulement un Kaempra du clan du Narval. Et encore, je siège à l'assemblée du Hedgurd sans guerrier derrière moi. On m'y tolère à cause de l'époux de ma sœur, Arkon Sangrépée, plus que par respect envers ma personne. Notre clan connaît de graves déboires hormis en ce qui concerne la richesse de nos terres maternelles, et l'honneur de nos lignées.
À part moi, je me demandais quels autres déboires un clan pouvait connaître, mais je me repris. Péotr parlait toujours.
Les propos tenus cet après-midi ne m'ont pas vraiment étonné. À la vérité, je m'y attendais depuis que la Narcheska a lancé son défi. Arkon Sangrépée lui aussi a compris que certains verraient d'un mauvais œil cette épreuve. Je tenais à vous dire que nous ne restons pas dépourvus et que nous disposons de plans de contre-offensive. L'hospitalité que nous vous offrons ici dans cette maison forte n'est qu'une des mesures de sécurité que nous avons prises. Nous espérions que l'opposition ne se déclarerait pas si tôt, et surtout pas par la voix d'un Kaempra aussi respecté que celui de l'aigle. Nous avons eu beaucoup de chance que le Kaempra de l'ours, qui est allié au sanglier, est décidé d'ajourner si brusquement la réunion, sans quoi la dissension aurait pu aller trop loin pour qu'on pût la réparer.
Vous auriez pu nous prévenir de cet antagonisme, Kaempra Péotr, avant que nous ne nous présentions devant le Hedgurd,
fit Imbre à mi-voix, mais le prince s'exclama simultanément.
Vous croyez donc possible de redresser la situation ? Comment ?
Sa précipitation me fit faire la grimace. L'homme nous avait menés dans un piège, et il méritait une remontrance, non l'acceptation inconditionnelle de son aide pour nous en tirer.
Il y faudra du temps, mais pas trop, quelques jours au lieu de plusieurs mois. Depuis notre retour de votre pays, nous avons investi beaucoup de notre argent et de notre influence à acheter des alliés. Ce que je vous dis là, sans embâge, naturellement, nous ne le reconnaîtrions jamais publiquement. Ceux qui ont bien voulu nous apporter leur soutien doivent, non basculer brutalement dans notre camp, mais paraître se laisser gagner par les arguments que le clan du sanglier présentera en notre faveur. Je tiens donc à vous recommander la patience et la prudence, tandis que nous modifions l'équilibre du Hedgurd.
« La prudence !»
répéta Imbre, les yeux plissés.
« Assassin ?»
Je captai clairement un écho d'inquiétude dans son art.
« Ce n'est pas le terme exact, »
répondit Péotr d'un ton d'excuse,
Quelquefois, il faut plusieurs mots dans une langue pour exprimer ce qui, dans une autre, se dit en un seul. Je souhaite vous demander d'être moins apparent, moins visible, moins facile à trouver, à interpeller.
Moins disponible ? Suggéra le prince.
Avec un mince sourire, Péotr haussa les épaules. Si c'est l'expression qui convient. Nous avons un dicton ici. Il est difficile d'insulter celui à qui on ne parle pas. C'est ce que je vous conseille. Que le clan du cerf loin-voyant évite tout affront en restant indisponible.
Pendant que nous laisserons le clan du sanglier parler en notre faveur, fit Imbre.
Il avait glissé une note de scepticisme dans sa question.
Et que devrons-nous faire pendant ce temps ?
Péotr sourit à nouveau. J'étais mal placé pour l'observer convenablement, mais il me semblait l'avoir vu soulagé que nous acceptions ses avis.
« Je recommanderais que vous quittiez Zilig. On s'attend à ce que vous vous rendiez à la maison maternelle de la Narcheska. On a d'ailleurs été surpris, ô Edgurd, que vous fassiez d'abord halte ici. Je propose donc que vous embarquiez demain à bord du Cartanier, le navire du sanglier, et que vous nous accompagniez à Vuisling, propriété maternelle du clan du Narval. Là, vous trouverez bon accueil et hospitalité semblable à ceux que nous avons reçus à Castelser. J'ai averti mes mères de vos coutumes à cet égard. Elles les jugent étranges, mais reconnaissent juste de pourvoir à votre subsistance comme vous avez pourvu à la nôtre. »
Il n'avait pu dissimuler l'espoir qui sous-tendait ses paroles, et cet empressement m'inquiéta. Nous écartait-il du danger, ou bien nous y attirait-il ? Je sentis la même question traverser l'esprit d'Imbre lorsqu'il répondit
« Mais nous sommes arrivés ce matin, et là de la mer. Le compagnon du prince, Lourd, n'a pas supporté la traversée. Il est malade et a besoin de repos. Partir demain est hors de question. »
Je savais que c'était possible, en réalité, et qu'Imbre en pesait le prix alors même qu'il parlait. Son refus avait pour seul but de lui permettre d'observer la réaction de Péotr. L'espace d'un instant, j'eus presque pitié de l'Outrilien. Il ne pouvait se douter que le prince et son conseiller communiquaient par la pensée, et encore moins que derrière la porte, non seulement j'entendais tous ses propos, mais encore que j'apportais mes remarques à celles qu'échangeaient en silence ses hôtes. Je vis la détresse pointée au fond de son regard, et j'informai Imbre et Devoir que je pensais son effroi sincère quand il s'exclama.
« Mais il le faut !» « Laissez votre homme ici avec un garde-malade. Il n'aura rien à craindre dans la maison forte du sanglier. Commettre un meurtre dans la demeure d'un clan constitue une terrible insulte envers sa maison maternelle. Or, le clan du sanglier est très puissant. Nul ne s'y risquera. »«
Mais on pourrait s'y risquer si l'ours s'aventurait au dehors, ou si je sortais ce soir pour dîner, par exemple. »
Le velours courtois du ton d'Imbre ne masquait pas complètement l'acier tranchant de sa question. De ma cachette, je vis que Péotr regrettait ses paroles précipitées. Il envisagea de mentir, puis, fièrement, il repoussa cette solution pour lui préférer la vérité crue.
« Vous saviez certainement que la situation pouvait tourner ainsi. Vous n'êtes sot, ni l'un ni l'autre. Je vous ai vu étudier les hommes et calculer l'équilibre d'un marché entre ce que vous proposez à l'un en fonction de ce que l'autre désire. Je vous ai vu donner à la fois le miel et l'éperon pour plier les tiers à votre volonté. Vous n'êtes pas venu ignorant de ce que glace-feu représente pour certains d'entre nous, et vous aviez sûrement prévu leur opposition. »
Imbre artisa au prince de garder le silence, et répondit à sa place d'un ton sévère.
« Une opposition, oui, voire des propos bellicistes, mais non des menaces contre le compagnon du prince, ni contre le prince lui-même. » Devoir est l'unique héritier du trône loin-voyant. Vous non plus n'êtes pas sot, et vous savez donc ce que cela signifie. Nous l'avons déjà exposé à l'extrême au danger en l'autorisant à se lancer dans cette quête grotesque, et vous avouez à présent qu'il risque l'assassinat au simple motif qu'il s'efforce de tenir sa promesse faite à la fille de votre sœur. Les enjeux de cette alliance deviennent excessifs, Péotr. Je ne gagerai pas la vie du prince pour ses fiançailles. D'ailleurs, depuis le début, je juge absurdes les exigences de la Narcheska.
Citez-moi une seule bonne raison pour que nous poursuivions cette entreprise. »
Le prince bouillait. Les protestations qu'il artisait à Imbre contre son attitude autocratique submergeaient mes propres pensées. Je pensais deviner l'objectif du vieil assassin. Mais la seule émotion que je ressentais était celle outragée de devoir qui entendait son conseiller donner à croire qu'il ne tiendrait pas sa parole. Même Lourd se retourna dans son lit avec un gémissement sous l'effet de cette tempête d'art. Le regard de Péotre se tourna vers devoir. Même dénué d'art, il restait capable de déchiffrer les pensées d'un adolescent.
« Parce que le prince a dit qu'il l'amènerait à terme. Revenir sur sa promesse et rentrer chez lui en urgence imposerait de lui une idée de lâcheté et de faiblesse. Une telle décision parerait peut-être à la guerre, mais elle ouvrirait la porte à de nouvelles attaques de pirates. Vous connaissez sûrement notre adage. Un couard ne possède rien longtemps.
Dans les Six-Duchés, nous disons... on peut dépouiller un lâche de tout sauf de sa peur. Cela revenait sans doute au même. Si notre prince donnait l'image d'un poltron, elle rejaillirait sur les Six-Duchés, et les Outriliens nous considéreraient de nouveau comme des proies.
Silence! Faites-moi les gros yeux tant que vous voudrez, mais ne dites rien!
Jamais je n'avais entendu Imbre artiser aussi fort, et l'ordre qu'il émit à ma seule intention me laissa encore plus pantois.
Observe son expression, Fitz!
Je perçus l'effort qu'il dut faire pour garder un ton posé, lorsqu'il répondit froidement.
« Khaempra du Narval, vous m'avez mal compris. Je n'ai pas dit que le prince reviendrait sur sa parole, de déposer la tête du dragon au pied de votre Narcheska. Il a prêté serment, et un loin voyant ne rompt pas son serment. Mais, une fois l'exploit accompli, je ne vois pas l'intérêt de jeter le sang de la famille royale aux orties en le mêlant à celui d'une femme dont la rouerie expose le prince au danger, tant celui d'un dragon que celui de sa future belle famille. Il exécutera l'acte demandé, mais nous ne nous sentirons nulle obligation de l'unir à la Narcheska par la suite. »
J'avais obéi à l'instruction d'Imbre, mais sans rien déchiffrer des expressions qui s'étaient succédées sur les traits de Péotre. Je reconnus naturellement la stupéfaction, puis la confusion. Je savais ce que mon vieux mentor espérait découvrir, ce que le Khaempra et la Narcheska désiraient le plus, de la mort du dragon ou d'une alliance avec les loin-voyants. Hélas, nous n'avions pas progressé d'un pouce vers la solution de ce mystère quand Péotre demanda d'une voix balbutiante.
« Mais... n'est-ce pas le plus grand souhait des Six-Duchés, former une union et donner naissance à une entente cordiale grâce à ce mariage ?
La Narcheska n'est pas la seule dame de haut rang dans les îles d'outre-mer,
répliqua Imbre avec dédain. Devoir ne bougeait pas plus qu'une statue. Je sentais qu'il réfléchissait furieusement, mais je ne captais rien de ses pensées.
Le prince peut certainement trouver une femme de votre peuple qui n'exigera pas, sur un coup de tête, qu'il risque sa vie pour rien. Et, dans le cas contraire, il existe d'autres alliances possibles. Croyez-vous que Khalsed ne verrait pas l'intérêt d'un pareil arrangement avec les Six-Duchés ? Permettez-moi de soumettre à votre réflexion un vieux proverbe de notre royaume. Il y a plus d'un poisson dans la mer.
Péotre s'évertuait toujours à comprendre comment la situation avait pu ainsi se modifier du tout au tout.
Mais alors pourquoi risquer la vie du prince en l'envoyant tuer le dragon s'il n'y a rien à y gagner ?
Demanda-t-il effaré. Devoir eut enfin l'autorisation de parler. Imbre lui souffla les paroles, mais je crois qu'il aurait su les trouver seul.
Pour rappeler aux îles d'outre-mer que, quand un loin voyant promet, il tient.
Peu d'années ont passé depuis que mon père a sollicité ses alliés, les anciens, et détruit la plus grande partie de la ville où nous sommes. Peut-être un mariage ne constitue-t-il pas pour nous le meilleur moyen d'éviter la guerre entre vos îles et nos Six-Duchés. Il vaut peut-être mieux montrer, encore une fois, à vos compatriotes que nous tenons toujours nos engagements. » Il s'exprimait avec mesure et pondération, non d'égal à égal, mais de roi à ambassadeur. Même un guerrier comme Péotre ne pouvait rester insensible à pareille attitude. Mais il s'offensa moins du ton de mon jeune prince que si un autre Khaempra s'était adressé à lui ainsi. Je le vis désarçonné, Mais je n'aurais su dire si la perspective que la fille de sa sœur n'épousât pas le prince le consternait ou le soulageait.
« En vérité, il peut paraître que nous vous ayons amené par ruse à vous engager à mener cette tâche à bien. Et, à présent que vous découvrez toute la portée de votre serment, vous devez vous croire doublement trompé. C'est le travail d'un héros qu'Eliania vous a imposé. Vous avez juré de l'accomplir. Si je m'abaissais à employer des subterfuges, je vous rappellerai que vous avez aussi donné votre parole de l'épouser. Et je vous demanderai si cet engagement ne vous lie pas tout aussi fermement en tant que loin voyant. Mais je vous en libère sans discuter. Vous pensez que nous vous avons trahi, et je ne puis nier que les apparences nous accusent. Vous savez, j'en suis sûr, que si vous exécutez l'exploit demandé, puis refusez la main de la Narcheska, vous nous humilierez à proportion de la gloire que vous aurez acquise. Le nom d'Eliania deviendra synonyme de fourberie et de perfidie. Pareille perspective ne me sourit pas, mais je m'incline devant votre droit à prendre cette position. De même, je ne lancerai pas de vengeance de sang contre vous, mais je garderai mon épée au fourreau et reconnaîtrai votre privilège de vous sentir lésé. Derrière ma porte, je secouai la tête. Une grande émotion sous-tendait manifestement les paroles de Piotr, mais j'en étais sûr, je ne percevais pas toute la portée de cette déclaration. Nos traditions étaient trop différentes. J'avais une certitude néanmoins, et le prince fit écho à mes réflexions alors que j'observais pensivement le Khaempra. « Je n'ai pas arrangé la situation, dirait-on. Nous voici mutuellement offensés par notre attitude, lui et moi. Comment sortir de cette impasse? Dois-je tirer l'épée et le provoquer en duel ?»«
Ne dis pas de bêtises !»
La réprimande d'Imbre claqua aussi sèchement que si Devoir avait parlé sérieusement.
Acceptez son offre de nous transporter à Vuisling à bord du Cartanier. Ce voyage était prévu de toute façon, autant donner l'impression d'une concession. Nous en apprendrons peut-être davantage là-bas. Il faut dissiper ce mystère, et je préfère vous éloigner du Edgurd et de tout risque d'assassinat tant que je n'en sais pas plus.
Le prince courba imperceptiblement le cou. Sur l'instigation d'Imbre, il devait donner le sentiment à Piotr qu'il regrettait la rigidité de ses propos. Nous acceptons avec plaisir votre hospitalité ce soir, Piotr de Noir, et nous embarquerons sur le Cartanier demain pour nous rendre à Vuisling. Le soulagement de l'autre fut palpable. Je me porterai personnellement garant de la sécurité de vos gens pendant votre absence. Devoir secoua lentement la tête. Il réfléchissait à toute allure. Si Piotr cherchait à le séparer de ses gardes et de ses conseillers, il ne devait pas le laisser faire. Mes nobles resteront, naturellement, n'appartenant pas à la lignée loin-voyant. Ils seront considérés comme extérieurs à mon clan, je suppose, et propres à servir de cible à ceux qui désirent se venger. Mais certains membres de ma suite doivent m'accompagner, ma garde et mes conseillers. Vous le comprenez, je n'en doute pas.
Elour, fis-je d'un ton pressant. Il est toujours très mal. Je ne puis partir sans vous, et je refuse de le confier à un autre dont j'ignore quels soins il recevrait. Ce sera pénible, mais il devra nous suivre. Il fait partie de mon clan d'art. En outre, songez aux catastrophes qu'il pourrait déclencher si ses cauchemars le reprenaient alors que nous serions au loin.
Prince loin-voyant des six duchés, en cela, je crois que nous pouvons vous obliger.
Piotr bafouillait presque, tant il désirait ardemment notre accord. La conversation avait pris une tournure moins périlleuse. Peu après, Piotr descendit avec ses hôtes au rez-de-chaussée où les attendait un repas. D'une voix exagérément forte, Imbre dit au prince qu'il fallait faire monter une collation substantielle à Lourdes afin d'accélérer sa guérison. Piotr lui assura qu'on s'en occuperait, puis je les entendis quitter la pièce. Je relâchai ma respiration, fis jouer mes muscles de mes épaules ankylosées et m'approchai du chevet de Lourdes. Il dormait toujours tranquillement, sans savoir qu'il devait affronter le lendemain l'épreuve d'un nouveau voyage. J'envoyai des pensées apaisantes dans ses rêves, puis je m'assis près de la porte et attendis sans enthousiasme les spécialités outriliennes qu'on ne tarderait pas à m'apporter.